Alors tu sais combien de millions de morveux sur la planète avalent chaque matin leur comprimé de métaquine ? Depuis qu'on a commercialisé cette saleté, le monde n'a jamais compté autant d'enfants hyperactifs. La marchandise crée le besoin.
Alors c'est vrai qu'il y a aussi des controverses autour de ce fameux manuel de psychiatrie qui paraît tous les 2 ou 3 ans aux États-Unis. Et à chaque nouvelle sortie, on a l'impression qu'on a inventé des nouvelles maladies, et en particulier des maladies qui sont profilées exactement pour convenir à tel type de médicament. Il y a aussi cette tendance, et là c'est un phénomène de société qu'il faudrait analyser au-delà de l'industrie pharmaceutique et des manigances publiques. Mais il y a quand même un phénomène qui consiste à rendre pathologique un certain nombre de comportements psychologiques qui passent, par exemple la timidité. La timidité tout à coup est devenue la phobie sociale. Et la phobie sociale se traite. Donc on crée une maladie pour ensuite engendrer des traitements, des utilisations de tels médicaments, etc. Donc on crée une maladie pour qu'ensuite on utilise le médicament adéquat. Donc ça, c'est une tendance qui dépasse largement la publicité des firmes pharmaceutiques, mais qui est une tendance à étudier, sur laquelle il faudrait réfléchir au niveau de la société tout entière.
Alors François Rouillet, vous avez aussi une vision de la société qui n'est pas très optimiste, on va dire, puisque notamment quand on parle de l'avenir de Régis, hein, puisque donc c'est cet enfant qui est un peu abandonné par sa mère, qui est parti dans les paradis artificiels technologiques, on va dire ça comme ça, et là c'est Sophie qui parle du gamin. Ce n'est pas une vie qu'on lui fait mener à ce môme. Sans affection ni carotte crue, on n'avance pas loin dans l'existence. Ou alors on devient indifférent à tout, on survit de rage et d'ignorance. L'abrutissement parental, le désert des sentiments, les brimades scolaires, une alimentation frelatée. Que reste-t-il de liberté à exploiter quand on tire coup sur coup autant de mauvaises cartes ? Sans compter les menaces qui le guettent à plus large échelle. La pression du marché, le formatage des esprits, la technologie envahissante, la pollution, le climat détraqué, la drogue, l'inculture.
Alors effectivement, dit comme ça, ça paraît très pessimiste. Les personnages qui s'expriment dans le livre souvent ont pris leur propre liberté d'expression et se sont permis des affirmations que peut-être l'auteur ne partage pas. Peut-être. Alors le pessimisme, il existe dans le livre. Je ne peux pas le nier. Il y a quand même pas mal de choses assez regrettables qui se passent dans cette société-là. Ma foi, c'est aussi le propre des auteurs qui font dans la dystopie ou l'anticipation. Avec vocation d'avertir leurs contemporains que s'ils continuent comme ça, ça va mal se passer, que de noircir un peu le tableau. Donc ça ne veut pas dire que je partage fondamentalement toutes les affirmations du livre. D'ailleurs, dans la bouche d'autres personnages, la vision de la société est différente, elle est même opposée à celle-là. Cela dit, il y a aussi une évolution des personnages et de l'intrigue, mais on ne va pas spoiler, on ne va pas révéler la fin, qui montre qu'il y a du côté de la prise de conscience de chaque individu et de l'engagement personnel, de l'éthique personnelle ou de la foi en sa propre existence et ses propres ressources, une réponse à ces phénomènes de masse qui ont l'air d'écraser les individus. Donc pessimisme, oui, mais c'est d'une part l'expression de certains personnages et c'est d'une part un état peut-être transitoire dans l'évolution des personnages au long du roman.
Oui, non, c'est vrai, on est obligé de se retenir de dévoiler la fin, parce qu'il y a un vrai suspense dans votre roman. Mais tout de même, vous posez tout au long du roman cette question des garde-fous éthiques. Alors, comme vous êtes pharmacien, vous avez quand même une certaine confiance dans la science, et pourtant, à travers ce personnage de Sophie, qui est donc une scientifique, vous donnez quand même une image sans concession de son travail. Je vous lis. Je n'ai commis qu'un seul article traitant du sujet, pompeusement intitulé « Pensée, ondes et particules ». Et encore, j'ai attendu de prendre ma retraite pour oser le publier sur le net. Mauvaise idée. Même à retardement, mes lecteurs m'ont aussi mal comprise que bien trahie. Une vraie bataille rangée. D'un côté, mes distingués collègues m'ont taxé de désinvolture et de sénilité mystique. En face, mes défenseurs improvisés se sont regroupés en comité de soutien, le pire fan club dont j'aurais pu pâtir, un ramassis de savants d'opérette et d'exaltés New Age. Devant tant de mauvaise foi, je n'ai eu d'autre choix que de quitter la place et de me taire. Les deux factions se sont étriées sans moi. Alors forcément, ce n'est pas sans rappeler quelques polémiques dans la réalité, François Rouillet.
Alors l'article auquel fait allusion ce paragraphe, c'est un article qui essayait de faire un rapport entre les mécanismes cérébraux ou la pensée ou l'esprit et la mécanique quantique. Il est vrai que pendant un certain nombre d'années, lorsque les gens essayaient de faire un rapport entre la science de la mécanique quantique qui concerne le monde subatomique et les neurosciences, qui jusqu'à présent se sont un peu contenus dans le champ du macroscopique, c'est-à-dire des lois physiques qui règlent le monde tel que nous le voyons et pas le monde particulier, eh bien ces deux mondes semblaient inconciliables. Et dès l'instant où on essayait de faire des rapports entre l'un et l'autre, on passait pour des exaltés et des mystiques. Il y a eu des tentatives comme celle-là, historiquement il y en a eu beaucoup, à commencer par la correspondance entre Jung et Pauli, donc Jung le psychanalyste et Pauli le physicien, qui essayait de trouver un mode de concilier l'infiniment petit et l'infiniment grand, et puis aussi l'incertitude constitutive de la physique quantique avec le déterminisme des sciences à l'échelon macroscopique. Donc ce rapprochement paraissait toujours hasardeux jusqu'à peu de temps de cela, et depuis quelques années, on commence à voir paraître des articles qui constatent que la biologie pourrait bien trouver des explications et un rapport avec la physique quantique. Et quand on parle biologie, eh bien, petit à petit, on voit paraître également des articles et des hypothèses qui incluent les neurosciences dans ce rapprochement avec la physique quantique. Et c'est très très intéressant parce que la physique quantique étant un domaine où on pourrait dire d'une façon un peu exagérée tout est possible, c'est-à-dire que le temps peut aller dans un sens ou dans l'autre, qu'on peut être à deux endroits à la fois, qu'on peut traverser des murs, ça c'est des choses que l'on constate à l'échelon particulier, et tout à coup on pourrait l'appliquer à la pensée, on pourrait l'appliquer à des mécanismes biologiques de façon générale. Là il y a de très intéressantes hypothèses qui sont quasiment confirmées par certaines expériences sur, par exemple, la photosynthèse chez les végétaux. On a montré que les mécanismes de photosynthèse pourraient utiliser des processus proprement quantiques, c'est-à-dire utiliser des manières d'acheminer l'énergie qui passent par des chemins quantiques, donc sont beaucoup plus économes en matière de dépenses d'énergie. Et l'évolution a peut-être choisi ces chemins-là parce qu'ils étaient tout simplement plus économes et plus efficaces. Alors, est-ce que le cerveau a aussi trouvé des chemins évolutifs au fil des millénaires pour utiliser la physique quantique d'une façon intéressante. Mais à ce moment-là, si la pensée est quantique, ça devient très intéressant parce qu'on est en train de développer les premiers ordinateurs quantiques. Est-ce que ça pourrait être finalement une possibilité de modéliser le fonctionnement de la pensée humaine? On sait que quand on utilise un ordinateur quantique, on va le faire calculer dans plusieurs dimensions parallèles. Et ces dimensions vont s'effondrer finalement en un résultat à la fin de l'opération. Mais tant que le calcul se fait, on est dans un monde indéterminé. On est en fait en contact avec des réalités qui sont concurrentes, des réalités qui sont que celles du chat de Schrödinger, c'est-à-dire à la fois mort et vivant, à la fois ici et là. Donc on est dans un monde qui est ubiquitaire, ou dans lequel il peut exister plusieurs réalités à la fois. Donc le mode quantique très intéressant pour modéliser certains fonctionnements de la pensée humaine. Et des psychologues aussi qui ont remarqué que la façon dont on résolvait certaines difficultés ou certains problèmes psychiques ou simplement logiques ou psychologiques, ou la manière dont on réagissait, dont on fonctionnait, rappelle très curieusement les mêmes fonctionnements que la physique quantique. Donc il y a des rapprochements maintenant qui deviennent de plus en plus objectifs et de plus en plus sérieux aux yeux de la science. Alors que Sophie, la vieille scientifique que je mets en scène dans Metakin, avait, elle, émis ses hypothèses à l'époque où il était interdit de faire un rapprochement entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, donc entre le macroscopique et le microscopique. Et là, elle fait le rapprochement par le lien de la physique quantique. Et c'est quelque chose qui, maintenant, au niveau de l'expérience et au niveau des hypothèses scientifiques, devient de plus en plus possible.
Oui, on a d'autres exemples d'applications à échelle macroscopique, notamment pour l'orientation de certains oiseaux migrateurs à l'intérieur de leur œil pour repérer le sens magnétique de la planète.
Oui, c'est cela. Et puis, il y a aussi des théories sur le sens de l'odorat qui reconnaîtrait certaines molécules à simplement une variation de leur vibration ou aussi, par exemple, la stabilisation de l'ADN serait peut-être basée sur des mécanismes quantiques. Alors, c'est pas mon domaine, mais je ne peux pas m'empêcher de lire les articles qui vulgarisent ces découvertes, et moi, mon imagination s'emballe à la lecture de tels articles.
Alors, vous montrez aussi comment finalement la société a deux mots d'ordre actuellement, hein, tout de même, rentabilité et productivité également, et comment les deux se mettent à converger. Je vous lis François Rouillet. Tu ferais mieux d'annoncer les choses crûment. Un cerveau dans le cirage n'est plus capable d'innover. Pour cela, il faut lever le nez de son ouvrage, laisser planer son humeur, libérer son imagination. Or, que fait la métaquine? Elle remplit les collèges de bons élèves dressés à respecter les consignes et digérer les encyclopédies. Sur un tracé balisé, rien à redire, c'est la drogue des recordmen. Mais pour ce qui est de découvrir, d'avancer des idées inédites, que pouic, de nos jolies capsules nous coupent les couilles. D'où leur succès universel. De quoi le monde a-t-il besoin sinon d'écoliers disciplinés, de travailleurs assidus, de consommateurs sans fantaisie? Je comprends ton enthousiasme, Yvon, mais sommes-nous, toi et moi, obligés d'avaler la potion servie à la clientèle? Voulons-nous vraiment nous retrouver avec les mêmes œillères, larges, inamovibles, fixées avec de longues vis qui nous traversent le crâne? Il faut bien un ou deux bergers au troupeau. Que deviendront les masses stupéfiées si personne n'est là pour leur inventer des buts et des besoins? Adieu, le rêve et la liberté y vont. Sous Metakin, on s'écrase et on trime.
Voilà, alors ça c'est le fameux soma de Huxley. C'est que la drogue est là pour que les gens acceptent leurs conditions, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient favorables ou défavorables, finalement, grâce à la drogue, on accepte son sort. Maintenant, la drogue est peut-être simplement une métaphore. Hein. Qu'est-ce qui nous drogue dans la vie? C'est pas nécessairement un médicament, mais c'est peut-être des habitudes, c'est peut-être des ambitions, la volonté d'avoir un confort, la volonté d'avoir un environnement qui nous perturbe pas trop, la force des répétitions, le sentiment de vivre dans un monde qui ne change pas, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent nous illusionner et nous rendre peu réactifs à finalement ce à quoi il faut être justement très attentif, parce qu'on est en train de se faire piéger.
Alors précisément, François Rouillet, vous avez une mention particulière pour une autre drogue, c'est l'opium du peuple. Alors vous parlez notamment des religions. Prenez les religions, exemple de supercherie séculaire. À l'interne, chaque doctrine paraît sûre et confortable, tapissée pour l'éternité de chaudes certitudes. Mais vu de l'extérieur, c'est l'empoigne et la foison. On trouve autant d'églises que de supermarchés, donc autant de catéchismes antagonistes prônant sa voie vers le salut. Au final, les promesses adverses retombent dos à dos, les credos s'annulent dans la confusion des anathèmes. À quel saint se vouer dans cette mêlée? Le client indécis doit bien jeter son dévolu sur une marque de savon. L'électeur finit par cocher une case sur sa liste. L'âme en quête de Dieu n'est pas plus extensible qu'un sac à commission ou une urne de vote. Elle est aussi sommée de choisir. Vous pensez que ce dilemme questionne le chaland ? Qu'il l'accule au doute et le contraint à exercer son propre jugement ? Détrompez-vous. Nul besoin de recouvrer son libre arbitre pour remplir son cabas spirituel. La majorité des croyants ne décident pas de leur confession. Ils se laissent influencer par la tradition ambiante ou l'instinct grégaire. La loi du confort les incite à cueillir sur la gondole des cultes ceux des articles de foi qui satisfont leurs désirs ou apaisent leurs craintes ataviques. Comme dans toute pratique consumériste, ils obéissent au merchandising, aux pressions collectives ou à la force de la routine. Il en va de la religion comme de n'importe quelle habitude de consommation, adoptée par mimétisme, conservée par paresse.
Oui, alors ça, c'est peut-être la religion prise dans un sens social, dans un sens général. Je laisse aux individus cette possibilité qu'ils puissent forger ou approfondir leurs propres croyances. Je ne m'aventure pas sur le terrain lui-même de l'existence de Dieu ou je ne sais quoi, mais je m'interroge simplement sur qu'est-ce qui fait que les gens s'associent à des mouvements de type religieux, qu'il s'agisse de mouvements collectifs à l'échelon d'une petite communauté, ou alors à l'extrême dans des intégrismes parfois meurtriers. On a quand même cet entraînement. On a été conditionné par l'éducation, par l'environnement, l'endoctrinement aussi, dans le cas de certains catéchismes et autres, à préférer certaines valeurs à d'autres, à accorder à sa façon de voir une importance plus grande que les autres, etc. Et on ne va pas les mettre en parallèle. On va simplement suivre le chemin qui nous a été ouvert, et sans penser qu'il puisse y avoir des voies parallèles ou des voies divergentes. Donc c'est le phénomène de l'acceptation sans réflexion et autres, que certains appellent soumission ou foi ou autre, mais qui, à mon avis, devrait être quand même remise en question à l'échelon de chaque conscience.
Oui, mais en même temps, François Rouillet, vous avez l'originalité de faire rejoindre cette paresse intellectuelle et ce suivisme à d'autres comportements, que ce soit celui de la politique ou de la consommation. Et c'est ainsi que, comme dans le vrai scandale de l'amiante et dans le matériau Eternox dans votre roman, les gens se laissent faire un petit peu. Ils ne se posent pas de questions dans une sorte de confiance aveugle du troupeau.
Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a accepté une habitude, qu'on a accepté un matériau, qu'on a pris une habitude de consommation, eh bien, il est parfois difficile d'en sortir. Et on va trouver toutes sortes de prétextes pour y rester attaché. Alors, est-ce que ça tient à la physiologie, hein? C'est toujours la même question. Est-ce que lorsque on a développé dans notre cerveau des modes de récompense, comme disent les neuroscientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui se met à avoir du plaisir à retrouver des mêmes sensations et à les rechercher toujours. Donc si par exemple on a l'habitude de boire telle boisson pétillante et sucrée, eh bien peut-être qu'il y a toujours ce plaisir qui est imprimé quelque part dans notre cerveau, et le jour où on nous dit que cette boisson pétillante et sucrée nous fait du tort, eh bien notre cerveau proteste parce que lui, il est habitué à cette récompense.
Oui, mais justement, le marketing a trouvé l'art à la fois d'utiliser cette espèce d'habitude et à la fois le goût de la nouveauté. Il n'arrête pas de sortir des nouveautés, parce que justement, notre cerveau est paradoxalement aussi très avide de nouveautés et de surprises.
Alors ce serait intéressant quand même, si à tout prendre, de développer plutôt cette aptitude à la nouveauté et à la surprise, parce que là il y a effectivement un terrain de développement plus intéressant, parce que intervient l'imagination, l'ouverture d'esprit, etc. Malheureusement, dans le comportement global, on voit quand même les comportements se figer en habitudes dont il est très difficile de sortir.